L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette émission d'Afrique dans tous ses états, c'est Marie-Claude Siakeza qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est notre invitée. Et ce sont ces voyages en Afrique qui feront l'honneur de cette première émission et sûrement, probablement, de plusieurs autres. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, quel plaisir et tous mes voeux.
Tous mes voeux aussi Marie-Claude, tous mes voeux de bonne et heureuse année.
La nouvelle année. Voilà, oui, alors c'est gentil de dire l'honneur parce qu'en fait pour moi, l'honneur c'est plutôt de pouvoir témoigner et de pouvoir présenter un peu... à la lumière de mes écrits que j'éprouve le besoin à chaque fois de rédiger. Donc j'ai fait un blog de voyage et pour vraiment restituer un peu toute cette richesse d'émotions, parce que même si ce sont des émotions qui peuvent être aussi de douleur, etc., de souffrance, de chagrin, pour ce qu'on voit, c'est quand même très très fort et on reçoit vraiment des leçons d'humanité. Donc pour moi, j'ai l'honneur justement de avec ces lignes que je vais vous lire, de vous présenter un petit peu, d'essayer de vous restituer un petit peu ce vécu-là et les gens là-bas et mes amis là-bas et ce peuple là-bas courageux. Et puis bon, je vous invite, Guylaine, à m'interrompre et à me poser des questions.
Entendu. Voilà. Donc, nous allons évoquer votre propre voyage, Marie-Claude, au Burkina Faso. On va peut-être commencer par le premier, parce que vous en avez fait beaucoup de voyages au Burkina. Alors, dans quel contexte vous avez fait, en tout cas, ce premier voyage ?
Ce premier voyage, alors le tout premier, en fait, il n'y a pas eu de blog, parce que ça s'est passé rapidement, enfin, 3 semaines, ce qui est rapide pour vivre ce qu'on a à vivre là-bas. Sauf que je suis revenue bien résolue à faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas aller dans des pays comme ça, juste en tant que touriste, etc. Et puis on est tellement pris par la richesse de ce qu'on y voit et de ce qu'on y ressent et de ce que les gens vous manifestent qu'on a envie d'agir, on a envie d'interagir. Donc c'était pas vraiment mon premier séjour qui a été justement l'occasion pour moi de me lancer dans 2 entreprises. Donc la première, elle a été de m'occuper des enfants de la rue, de me joindre à une équipe qui s'occupait des enfants de la rue. À l'époque, et la deuxième, ça a été de créer une association en France qui s'appelle Maya. Maya, pour moi, la symbolique, c'était la fille du titan Atlas, c'est la mère du dieu Hermès, vous voyez, c'est la mythologie grecque. Mais Maya, ça veut dire, ça signifie beaucoup de choses, et même en langue bambara, je crois que ça a aussi un sens. Enfin bref, les Maya, il y a de nombreuses Maya dans de nombreuses cultures, ça je ne le savais pas au départ. Et donc ces voyages, je les ai fait plusieurs fois à double titre, donc à la fois... pour faire ce projet avec pour la prise en charge des enfants de la rue. Et à l'époque, je dirais que c'était moins pire que maintenant. J'aime bien employer voilà des pléonasmes. Moins pire parce que il n'y avait pas cette pression actuelle de la drogue. Et puis il n'y avait pas la paupérisation qu'il y a eu actuellement et qui a occasionné d'ailleurs le renversement du chef de l'État qui était resté trop longtemps au pouvoir au Burkina. Et puis, il n'y avait pas le fléau de la drogue qui actuellement est en train de pourrir le monde entier et particulièrement l'Afrique puisque bon c'est quand même une plaque tournante et qu'en plus il y a quand même beaucoup de pauvreté et que les gens voilà ils ont envie de s'en sortir. Donc je vais vous lire alors ce que je vous lirai chaque fois ce sont des émotions c'est au fur et à mesure que je vis les situations. Et donc, Guylaine, voilà, au gré de vos questions et interventions. Alors là, c'était un mail que j'écrivais, parce que de temps en temps, j'écris des mails et je les reprenais après dans mon blog, que j'écrivais à mes amis restés en France. Et donc, la plupart, il y en a beaucoup, faisant partie de l'association, puisque mon association est une association qui parraine les enfants pour leur permettre de faire des études, d'être en meilleure santé, de manger à leur faim, etc. Donc voilà, le premier petit chapitre, c'était « Me revoilà ici, dans la poussière, la misère et la joie de vivre, musique et sourire garantis à toute heure. Je retrouve mes couleurs, mes odeurs, ceux que j'aime et d'autres encore, mes maîtres à vivre, tous ceux qui nous apprennent encore et encore la valeur suprême de la vie, même si elle est altérée par cette pauvreté qui semble souvent impossible à solutionner. Donc, ça, c'était un premier jet, donc, je venais d'arriver. Et donc, ensuite, j'embraye avec un témoignage de ce que j'ai vécu au siège de l'association que nous soutenons. Nous soutenons deux associations là-bas. Nous sommes partenaires, je vais dire, plutôt. Et donc, la plus grande, celle qui regroupe énormément de monde, qui prend en charge essentiellement le couple mère-enfant victime du sida. Soit infecté lui-même, la maman et l'enfant aussi, ou l'enfant, soit affecté, veuve, etc. Et il y a aussi beaucoup de grand-mères, hein, ce sont les vieilles femmes qui, très, très heureuses, très, très courageuses, je dirais, même fatiguées, prennent en charge les petits-enfants, souvent quand il n'y a plus de famille.
Est-ce qu'on peut citer cette association?
L'association, oui, ça s'appelle, celle-là, elle s'appelle Association Espoir pour Demain. Voilà. Cette association qui a été la première en Afrique de l'Ouest à prendre en charge, à s'occuper de couples mère-enfant, victimes du sida, et qui a milité beaucoup pour la prise en charge et la thérapie des mères et des enfants. Il faut savoir que même à l'heure actuelle, là, récemment, j'ai une amie qui a pris en charge une famille en parrainage, parce que le papa est arrivé à l'association, ayant le sida, ses trois enfants l'ont. La mère là, et la mère est partie tout à coup, a abandonné sa famille, dont la fille, qui est l'aînée, la fille avait son petit frère au dos, qui a 3 ans, et en sachant qu'il n'y avait pas de traitement anti-VIH pour le petit de 3 ans, même à l'heure actuelle. Donc à l'époque, c'était vraiment très prégnant. Donc mon association, Maya, a été partie prenante et le premier partenaire et le premier bailleur avec nos pauvres moyens, mais de l'association ED qui a pris une importance considérable maintenant. Donc là, je vais vous décrire une matinée au siège de l'association. Donc, ça jacasse dans tous les coins. Les enfants sont dans la cour pour l'alphabétisation et le soutien scolaire. Alors, les enfants, c'est le jeudi, puisque les écoles là-bas, les scolarités, restent le jeudi, comme c'était dans l'ancien temps, c'était le jour chômé où les enfants n'allaient pas à l'école. Et ce jour-là, donc, les femmes et les enfants vont à l'association. Et les enfants, donc, autant que possible, donc, ont un soutien scolaire ou sont alphabétisés parce que dans les milieux très très pauvres, souvent les enfants ne vont pas à l'école. Donc, il y a le soutien scolaire qui se passe et pendant ce temps, les femmes préparent le taux à la farine de mil pour midi. Alors, le taux, c'est un peu, ça ressemble, ça s'assimile un petit peu à la polenta des Italiens, par exemple. C'est fait avec la farine de mil et c'est très nourrissant et ça se prépare avec quelques légumes, des condiments comme ils appellent, et s'il y a un peu d'argent, on peut rajouter de la viande, du poisson, enfin un petit peu ce qu'on a, en sachant que là l'association permet une fois par semaine d'avoir un repas avec de la viande ou avec du poisson, ce qui n'est pas le cas dans toutes les familles. Donc les femmes préparent le taux, et ce taux récompensera chaque enfant de son effort. Ils viennent souvent à pied, de loin. Et souvent, il n'y a pas de petit déjeuner, ça n'existe pas là-bas. Souvent, on mange le plat qui reste de la veille, s'il en reste. Ce matin aussi, il y a distribution de maïs, de mil, de savon, d'huile. Et tout ça, ça va permettre aux familles, alors cette distribution aux familles, hein, ça permettra aux familles de vivre moins misérablement, de pouvoir se laver, parce que là-bas, une pierre de savon, quand on voit nous ce qu'on jette, une pierre de savon, c'est vraiment très important. Donc, les femmes repartent sur la mobilette avec leur gros sac, pleine de nourriture et de tout ce qu'il faut. Leurs voix sont fortes et le dialogue permanent dans ce pays, les traditions orales, crée une animation, une espèce de force vitale dans tout ce collectif entre les enfants qui sont d'un côté dans la cour avec le tableau, l'instituteur, etc. et de l'autre les femmes qui préparent. Donc, je disais, je ne parlerai pas tout de suite de Juliette, désespérée, qui voulait me donner sa petite fille de 4 mois. Nous essayons de la soutenir. Ou de Cécile, qui a perdu son bébé la nuit de Noël. J'ai su ça cette nuit. Enfin, j'en ai finalement parlé, parce que je disais, je n'en parlerai pas, parce que c'est très dur, et que le nombre de bébés qu'on a voulu me donner pour que je les adopte là-bas, vous pouvez même pas vous imaginer, et ce sont toujours des mamans désespérées, qui n'ont pas de moyens. Et là, ensuite, nous avons beaucoup aidé cette Juliette en question, parce qu'en plus, on avait compris rapidement qu'elle avait le sida. Et très vite, il a fallu qu'on lui fournisse du lait pour nourrir son bébé parce que à l'époque, Et même encore, l'allaitement maternel, c'est souvent un vecteur de transmission de la maladie. Donc voilà, et puis Cécile qui a perdu son bébé, et là-bas, et en plus la ligne de Noël, Cécile, en plus, c'était sûrement une chrétienne, hein, parce que là-bas, il y a toutes sortes de religions, les musulmans et tout ça, les traditions, les religions traditionnelles. Et la nuit de Noël, bon, je trouve symboliquement, était quand même très difficile. Voilà. Donc là, j'arrêtais mon propos à ce moment-là, parce que je disais, je ne sais plus rien du monde, mais ici, c'est tout un monde. C'est vrai que quand on va là-bas, déjà, bon, moi, j'avais péniblement une radio, de temps en temps, je pouvais regarder la télé, mais c'est souvent mes amis qui me tenaient au courant de l'actualité en Europe et en France particulièrement. Donc, c'était un petit peu pour vous donner la teneur de ce qu'on peut vivre là-bas dans une matinée. Et avec tous ces échanges, cette richesse, ces enfants qui veulent vraiment étudier, alors qu'ici, on faut qu'on les supplie avec leur portable. Bon, bref, voilà. Et donc là, c'était la teneur d'une journée de présence, donc une journée importante dans l'association. Et je vais vous simplement vous livrer aussi un peu mes vibrations, mes pensées au retour, parce que chaque fois que je quitte cette ville, qui est la ville de Bobo, qui est la deuxième ville de Burkina, j'avoue que j'ai le cœur gros. C'est toujours un petit peu pénible pour moi, voilà. Et d'être dans cet entre-deux après, c'est toujours un peu difficile. Donc je dis, c'était mon retour cette année-là. Il fallait bien la quitter, cette ville. C'est toujours pareil. Je me suis donc embarquée dans le bus et en route pour 5h30 pour faire les 350 km. C'est une épopée terrible. 350 km, 5h30, c'est vraiment... Mais bon, en même temps, ça permet de... Voilà. La route file. Elle se déroule comme un cordon qui me guide à travers la terre rougeâtre, déjà marquée par la sécheresse, parsemés d'arbres tous plus majestueux les uns que les autres, et mon regard se perd dans ce paysage. Je me confonds dans cette nature aride et familière qui n'existe que par elle. Et pour moi, à chaque fois, c'est une nécessité pour pouvoir vivre cette transition. C'est 5h30 qui m'arrache à une vie très riche en émotions, et on a l'impression quand même qu'on est utile en même temps, et on y vit des choses difficiles et pénibles, et en même temps très très riche aussi et très fort. Et on arrive à la capitale pour attendre après avec des amis encore pour attendre, voilà. Et donc là, je vais vous citer donc quelques exemples de choses que j'avais vécues ce jour-là. Donc Maïmouna, orpheline aussi, et son beau sourire. C'est une petite orpheline. Emmanuel, enfant orphelin adopté et tellement marqué par son abandon que je n'ai pu le toucher, mais qui a éclaté en sanglots lorsque je suis reparti. Et puis Abibata, polio, qui a rampé sur la terre battue pour aller me chercher un tabouret qu'elle a rempli très rapidement et suivi pour enlever la poussière. Alors, Maïmouna, Emmanuel et Abibata ont été parrainés par des personnes de l'association ici. Emmanuel, finalement, on a arrêté le parrainage parce qu'il était hébergé. C'était un cas très, très pénible. La mère l'avait abandonné. En fait, c'était très, très difficile. Et c'était un couple très, très religieux. Qui avaient déjà pas mal d'enfants et qui ont fini par l'adopter. Donc, à un moment, ils nous ont dit, bon, il vaut mieux vous parrainer d'autres personnes. Ça va, nous, on va se débrouiller avec cet enfant. Et quand je dis que j'ai pas pu le toucher, c'est qu'il savait. Il savait qu'à ce moment-là, il y avait un parrainage pour lui, que c'était pour l'aider. Et il était dans cette période de transition où la famille était en démarche pour l'adopter. Il était extrêmement sensible et émotif. Et quand je suis repartie, c'était un chagrin immense qu'il a eu. Et puis Abibata, c'est une jeune fille polio qui vivait dans une espèce de bourbie dont nos lapinières sont mieux que ça, là où on a fait l'affaire, avec sa grand-mère qui était très très âgée, elle était orpheline aussi. Et Abibata a été parrainée très longtemps par une amie de l'association et elle a réussi à passer son bac. Et elle a un poste dans une administration, je crois, mais elle a passé son bac à 21, 22 ans en fait. Ça a été terrible, elle vivait dans des conditions, dans une misère, sans eau courante, sans électricité, etc. Mais voilà, notre gloire un petit peu, parce que quand on arrive à sortir des gens de là-dedans, c'est très bien.
Alors, quand vous dites, Marie-Claude Siakezak, parrainage par des membres de l'association Maya, si je comprends, oui. Ou Espoir oui. du Monde, à l'égard d'adultes ou d'enfants, comment ça se passe? Oui.
Ben c'est en fait normalement le parrainage, donc c'est notre association, hein, on a une quarantaine de parrains actuellement, donc plusieurs parrainages collectifs qui permettent d'aider un groupe d'enfants qui ont peut-être voilà, parce que tout le monde, il n'y a pas assez de parrainage pour tous les enfants nécessiteux, Et c'est, normalement, c'est pour un enfant, mais en sachant que quand on envoie, c'est une somme dérisoire mensuelle, c'est 40 euros par trimestre, imaginez. Hein? Et on permet quand même à une famille de scolariser son enfant et puis d'avoir un petit peu de quoi manger et puis même éventuellement d'avoir de quoi acheter des médicaments. Donc, en aidant un enfant, on aide aussi la famille. Voilà. Et on a eu des résultats extraordinaires, hein, d'enfants vraiment dans des conditions terribles de précarité et de misère et qui s'en sont sortis très, très bien. En plus, avec l'idée et la stimulation d'un enfant, d'un parrain en France qui les soutient, qui pense à eux. Et puis donc, je vais vous parler aussi de cette matinée que j'avais vécue, et c'est au retour, je m'en souviens, je me le remémore, une petite fille de 2 ans, à peu près, qui dormait dans la fraîcheur du petit matin, abandonnée, c'était dans un espèce de terrain vague, abandonnée avec un sac contenant ses affaires, et c'était Marceline, la bonne d'une amie Odile, qui avait vu cette petite fille sur ce terrain vague, endormie avec ses affaires. Marceline est arrivée bouleversée, nous a raconté l'histoire et nous sommes repartis toutes les trois rapidement avec la voiture d'Odile pour recueillir cet enfant, mais elle avait déjà été récupérée. Et on a donc osé espérer très fort qu'elle avait été prise en charge par l'aide sociale. Donc voilà. Donc les choses, c'est ce qui me revient, à la fin de ce séjour, à mon retour. Et puis Sankomi, qui a lui aussi éclaté en sanglots. Un jour, il était venu me voir, avec d'autres enfants, d'amis. Ils étaient 4 ou 5 petits garçons de 9, 10 ans. Et Sankomi, tout à coup, s'est mis à éclater en sanglots pour me dire qu'il n'avait pas de parents, qu'il ne les connaîtrait jamais. J'ai appris ensuite qu'on lui a fabriqué un état civil à Pracadabran depuis peu, car comme beaucoup d'enfants qui naissent dans les concessions, il n'avait pas été déclaré, il n'avait pas d'état civil. Je n'ose imaginer comment ça se passera, sa découverte de cette mascarade, car effectivement, les aider à apprendre à lire, à écrire et à réfléchir, donc à être instruit, ça peut aussi servir à prendre connaissance de ces éléments-là. Et donc Sankomi était désespéré, et il se trouve qu'il y avait dans les petits garçons qui étaient là, il y en avait un qui avait été abandonné, un bébé abandonné qui était adopté. Il y en avait un autre, ses parents étaient séparés, il y avait galère avec. Mais je veux dire, ils étaient interloqués de voir cet enfant qui, tout à coup, je ne sais plus de quoi en parler, s'est mis à sangloter pour cette façon-là. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai appris son histoire, apparemment, ses parents l'avaient pondu comme ça, et puis ils étaient partis tous les deux. Il n'y avait plus rien pour lui, sauf la famille, la grande famille, comme on dit, qu'il avait recueillie. Et il a bien fallu quand même à un moment qu'on lui donne une identité. Et puis donc, à ce retour, je dis, je suis reconnaissante aussi à mes amis ouagadougous qui me reprochent souvent de préférer Bobo et de rester très peu à la capitale, à Ouagadougou, de m'aider dans la transition entre mes deux vies. Même si encore Ouaga étale sa pauvreté en dehors de quelques quartiers scandaleusement riches, c'est vrai que c'est quelque chose qui me révolte beaucoup. En même temps, je vis là-bas un petit peu comme une transition, comme quelque chose qui me permet de passer à autre chose.
Marie-Claude, c'est justement d'une transition dont il va s'agir maintenant, parce que le temps écoulé pour ce premier épisode s'achève. Je vous invite à nous lancer la musique que vous avez choisie pour ce premier épisode, et nous allons nous retrouver dans une semaine pour la suite de votre périple au Burkina Faso.
Voilà, ben je suis frustrée, mais en même temps, je vous en veux pas. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Donc là, vous allez écouter une chanson de Victor Démé. Victor Démé était un pur bobolais qui a beaucoup galéré, un peu comme ça, et qui avait vraiment commencé à décoller, qui avait fait 3 albums, je crois. Il avait été découvert, qui commençait à avoir une petite carrière internationale et qui malheureusement est décédé, vous allez le comprendre, il y a 4-5 ans, d'une crise de paludisme, comme quoi on en meurt aussi là-bas encore. Hein. Vous voyez, nous on parle de notre pandémie actuellement, mais là-bas ça fait des ravages aussi. Il est mort à l'hôpital de Bobo d'une crise de paludisme tout bêtement, alors qu'il commençait vraiment à gagner sa vie. Et donc je vous propose d'écouter Burkina Mousso. En sachant, c'est un hommage à la femme burkinabé, Mousso, en langue bambara et en doula, ça veut dire femme. Et c'est souvent usité, voilà. Et les femmes sont très importantes là-bas. Voilà, à la semaine prochaine. Merci, Guylaine, et merci à tous.
Merci, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. On se retrouve dans une semaine pour le deuxième épisode. Au revoir.
Voilà, à bientôt. Au revoir.
Burkina Kebaloulé. Aïe, t'es un fou, moussoulouye. Oh, Burkina Keba. Burkina moussouye barada. Oh, Burkina Jaba, Burkina Muso, ye barare. Aye, doke yere. Aye, Burkina Muso, ye barara. Ah, Burkina Jaba lule, aye jage fo muso ye. Oh, Burkina Jaba, Burkina Muso, ye barara. Aye, doke yere. Burkina Muso ye barara, oye miriyanyo matala, dalie garapani lelana, ye miriyanyo matala, dalie nango barara, ye miriyanyo matala, dalie safina lelana, ye miriyanyo matala, dalie nango barara, aye, loke yere, aye, Burkina Muso ye barara. Aye, oh, dokey yere yela. Aye, Burkina Muso ye barada. Nalu li, ah, nalu li, nalu li.